Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, en ce 24 décembre, bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs, l'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous, et à la une, bien sûr, les derniers préparatifs avant le réveillon de ce soir. Noël sous Covid, la Haute Autorité de Santé recommande d'ailleurs de réduire encore un peu plus le délai entre la deuxième et la troisième dose, 3 mois au lieu de 5 aujourd'hui.
Et puis, nos deux sujets du jour. D'abord, ces règles qui risquent de changer avec le variant Omicron, règles d'isolement, mais aussi la formule 2G. Il nous faudra peut-être bientôt un test vaccinal plus un test négatif. Et à 12h45, le chef Michel Sarran nous aide à concocter un menu de fête de dernière minute.
Notre question du jour sur RTL.fr. Avez-vous plus dépensé cette année pour vos menus de Noël? Vous dites oui à 21%, non à 75%. La météo du jour, c'est avec vous, Claire. Bonjour Claire.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Et c'est un réveillon bien gris.
Bien gris mais doux. Alors cette année, pas de neige ni de verglas puisqu'on observera cet après-midi jusqu'à 18 degrés dans le sud-ouest à Tarbes, encore 16 degrés à Bordeaux. Donc des conditions quasi printanières puisqu'ajouter à cela de belles éclaircies qui vont se développer mais seulement pour ces régions. Poitou-Charente, Limousin, Nouvelle-Aquitaine. Partout ailleurs, en effet, il faudra composer avec un ciel de plomb ponctué de quelques pluies fines avec un mercure compris entre 6 et 15 degrés.
Merci Claire, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer, parole aux enfants qui, en ce 24 décembre, forcément n'attendent qu'une chose. Le Père Noël et son prénom.
Qu'est-ce que vous avez demandé au Père Noël?
J'ai demandé plein de choses. Un avion Barbie, une guitare électrique rose parce que j'adore ça.
Ouais.
Des poupées et des nounours.
Et toi, tu veux quoi?
Une
tronçonneuse. Est-ce que vous avez déjà vu le Père Noël?
Moi, 3 fois le vrai. Et je sais pas combien de fois le faux. Il va passer chez mon papa, chez ma maman et ici à Paris.
Et donc tu vas le fêter où Noël ce soir?
À ma maison.
Ok, et tu sais comment le Père Noël va venir jusqu'à ta maison?
Oui, avec son traîneau et ses rennes.
Avec son traîneau et ses rennes. T'es pressée d'être ce soir?
Oui, et surtout je vais mettre ma nouvelle robe.
Dis-moi, comment elle est ta robe?
Bleu pailleté.
Dernière question quand même, très importante. Est-ce que vous avez été sage cette année? Bon bah joyeux Noël les enfants.
Joyeux Noël RTL.
Oh Michel,
trop mignon et en plus il chante bien l'impatience des plus petits au micro RTL de Nerissa et Mani du côté des plus grands. C'est l'heure des derniers préparatifs, notamment pour le dîner de ce soir, celui du réveillon. Bonjour Denis Grandjeau.
Bonjour Amandine, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes rendu au marché de Langon en Gironde et forcément le Covid n'est jamais loin.
Oui, et le moins que l'on puisse dire c'est que l'esprit de Noël souffle le chaud et le froid. Alors d'abord il y a les gens plutôt pessimistes.
Moi je vais dormir, je vais hiberner.
Ouais. Repas annulé, cas contact. Eh bien, du coup, on sera deux.
Ben, nous, on n'a pas le moral. C'est le climat actuel et puis les gens qui sont agressifs.
Et puis, il y a les optimistes.
Ah, ben, bien sûr. Et alors, mais oui, j'ai le moral. On est un pays où on a la chance d'avoir des aides, la médecine gratuite, personne n'est mis de côté. Pourquoi on n'aurait pas le moral? Allez ailleurs.
En tous les cas, pour beaucoup, c'est la dernière ligne droite. Le menu de Noël se prépare.
Avec les petits-enfants. Voilà, en famille, tranquillement.
Des huîtres, foie gras, et après je sais pas trop, fraîchement.
Surprise.
Oui.
Et si on n'a vraiment pas d'idée, bien les traiteurs sont là pour parer à toute éventualité.
En rôti au chapon farci, vous avez des suprêmes de pintade, il y a de la courolle de Saint-Pierre, et puis après on reste dans les plats un peu traditionnels sur les marchés, parce que les gens veulent se ménager un petit peu pour ce soir, donc un petit repas à midi avec une paella.
Petite paella à midi, petit chapon ce soir.
Ouais, c'est un beau programme quand même.
Un beau programme en effet, Denis Grandjeau sur le marché de Langon pour RTL.
Et à 12h45, c'est le chef Michel Sarran qui nous donnera quelques idées, des conseils aussi pour un menu facile, mais j'ai l'impression qu'il y a un menu imposé un peu le soir de Noël.
Ah bon?
Bah, foie gras, saumon, des choses comme ça, c'est toujours un peu la même chose.
Oui, oui, oui. Bon, ça dépend, il y a les familles chez qui c'est...
Ça dépend, ça dépasse.
C'est original. Un Noël, en tout cas, qui sera solidaire pour l'association On remplit le frigo, qui vient en aide aux étudiants précaires. Un repas leur est d'ailleurs offert aujourd'hui. Philippine de Clermont-Tonnerre, vous êtes dans le 8e arrondissement de Paris.
Oui, les étudiants viennent d'arriver dans ce petit restaurant de quartier. L'établissement Certa met aujourd'hui son local à disposition de Remplis ton frigo, une association qui vient en aide aux jeunes en difficulté. Dans la file d'attente, Annika, 22 ans, cette année, cette étudiante en situation de précarité ne passera pas Noël avec sa famille.
Je mange pas tous les repas. Je mange un ou deux repas et j'essaye de faire en sorte de ne pas beaucoup manger pour pouvoir économiser la nourriture aussi. Et on n'a pas tous l'occasion de revoir nos parents pendant Noël, du coup c'est super cool.
À l'intérieur, l'ambiance est au rendez-vous. Reconnaissable à leur t-shirt blanc, des bénévoles sont mobilisés depuis le matin. Ils ont dressé les tables et concocté un menu spécial. Brunella Emanuelli, vice-présidente de Remplis ton frigo.
C'est vrai que ça, on n'y pense pas tout le temps, mais tous les étudiants ne fêtent pas Noël dans leur famille, ne peuvent pas rentrer chez eux pour des raisons financières ou pour d'autres raisons.
Les jeunes dans le besoin sont de plus en plus nombreux en France. Un quart d'entre eux sont confrontés à la précarité.
Et Philippine de Clermont-Tonnerre, donc dans ce restaurant du 8e arrondissement, et qui offre un repas à ses étudiants précaires, un Noël en quelque sorte, un réveillon avant l'heure. Et on a bien sûr une pensée pour tous ces gens qui seront seuls ce soir. Sur le front sanitaire, la HAS recommande de réduire encore un peu plus le délai entre la dernière injection et la dose de rappel. Bonjour Odile Pouget.
Bonjour.
La Haute Autorité préconise désormais 3 mois.
Oui, alors vous vous souvenez, on était jusqu'à présent sur un intervalle de 5 mois. Mmh. On devait passer à 4 début janvier. Finalement, ça sera possible dès aujourd'hui. C'est acté par le gouvernement. Cela va permettre à plus de 7 millions de personnes supplémentaires d'être éligibles à cette dose de rappel. Là, en effet, la HAS prône un temps encore plus bref. Le feu vert du gouvernement devrait intervenir d'ici quelques jours. Alors, pourquoi 3 mois? Parce qu'on sait, selon les premières données en vie réelle, qu'avec Omicron, les vaccins utilisés actuellement perdent plus rapidement leur efficacité qu'avec les autres variants. Pour empêcher l'infection, on passe par exemple de 80% de protection 2 mois après la deuxième injection à seulement 34% 4 mois après. Cela remonte très haut, 15 jours après la dose de rappel, à 75% exactement. Dernière précision, pas de changement à ce stade pour la date d'expiration de votre passe sanitaire. Elle est toujours fixée à 7 mois après votre dernière injection.
Autre recommandation de la HAS, elle concerne cette fois la dose de rappel pour les ados, les 12-17 ans.
Oui, mais pas pour tous. Seuls les adolescents fragiles, souffrant de comorbidités, diabète, obésité, problèmes cardiaques notamment, ainsi que tous les immunodéprimés sont concernés par cette recommandation. La HAS se prononcera plus tard pour l'ensemble des adolescents.
Merci beaucoup Odile Pouget pour toutes ces informations.
De nouvelles recommandations alors qu'on a dépassé hier un nouveau record.
Plus de 90 000 nouveaux cas en 24 heures, 91 608 précisément. Hier, le conseil scientifique évoquait un réel risque de paralysie de l'économie début janvier. C'est déjà compliqué aujourd'hui dans certains secteurs, Pierre Herbulot.
Oui, à commencer par les transports. À la SNCF, 1500 cheminots sont soit malades, soit cas contact, avec des conséquences sur les petites lignes régionales où les remplacements au pied levé sont compliqués. Des TER sont annulés, notamment en Occitanie et en Normandie, et ce jusqu'à début janvier, jusqu'à la fin finalement des périodes d'isolement. Même cause, même conséquence dans le domaine du spectacle. Trop de cas de Covid dans la troupe, disent les équipes du Roi Lion. La comédie musicale ne se jouera plus au théâtre Mogador jusqu'à l'année prochaine. Ça, c'est pour les cas les plus concrets, mais dans pratiquement toutes les entreprises, finalement, c'est la galère. Entre les malades, les cas contacts, le télétravail, l'équilibre est très précaire, surtout en période de vacances. Mmh. C'est encore gérable, mais la grosse inquiétude, me disait un patron au téléphone ce matin, c'est le début du mois de janvier.
Effectivement, le conseil scientifique annonce des centaines de milliers de cas sans doute par jour, pas forcément grave, mais si on prend en compte les règles actuelles, effectivement, les gens ne peuvent pas venir travailler.
La fameuse désorganisation de la société.
Et Pierre Herbulot du service économie de RTL. Marine Le Pen, elle annonce qu'elle a porté plainte pour injures et dégradations commises devant son domicile. Bonjour Thomas Després.
Bonjour.
De quoi s'agit-il?
Alors, selon nos informations, il s'agit en fait de petites dégradations. On parle d'insultes violentes qu'on ne citera pas à l'antenne, dessinées avec du givre sur des voitures devant le domicile de Marine Le Pen. Dans le tas, un Z2022, le signe de ralliement des soutiens d'Éric Zemmour, sans pour autant savoir s'il s'agit vraiment de militants du candidat.
Alors, ces faits interviennent dans un contexte particulier. On a eu droit à plusieurs épisodes de tensions ces dernières semaines.
Il y a eu les bagarres au meeting de Villepinte, des vidéos avec des militants d'extrême droite lourdement armés, et puis il y a eu des intimidations au domicile de l'écologiste Sandrine Rousseau.
C'est pas des faits les uns à côté des autres qui, pris séparément, ne disent pas grand-chose. Ce sont des méthodes utilisées par l'extrême droite pour intimider et mettre la pression sur l'opposition politique.
Alors, Éric Zemmour a réagi dans un communiqué au début de la semaine. Il a condamné les violences en disant que leurs auteurs ne peuvent pas se revendiquer de son camp.
Il y a une instrumentalisation politique qui est faite de ces faits, si tant est qu'ils soient avérés chez Sandrine Rousseau. Pardon, mais c'est Éric Zemmour qui est sous protection policière. Faut pas inverser les choses.
Vous venez d'entendre Antoine Dierce, le numéro 3 de la campagne d'Éric Zemmour. On le rappelle, des enquêtes ont été ouvertes. Elles diront qui sont exactement ces gens et s'ils sont des militants ou pas.
Thomas Després du service politique de RTL. Et puis plusieurs pays, à commencer par la France, s'inquiètent du déploiement de mercenaires russes au Mali. Bonjour Émilie Bojard.
Bonjour.
C'est un groupe qu'on appelle Wagner.
Oui, ce sont en fait des mercenaires, des miliciens soutenus par Moscou et leur mauvaise réputation les précède. Ils sont connus pour leurs exactions et leur mission de déstabilisation, notamment en Centrafrique, en Libye, en Ukraine. Le groupe Wagner au Mali, c'est donc une mauvaise nouvelle pour la France et pour tous les pays engagés au Sahel pour la lutte contre le terrorisme. Selon la presse malienne, 500 hommes de Wagner devraient être déployés prochainement dans 10 localités différentes. Un camp militaire est déjà installé autour de l'aéroport de Bamako et des ravitaillements sont arrivés. Tout cela grâce à des avions de l'armée russe. La situation est grave, s'alarme une source gouvernementale. La France a toujours expliqué qu'il n'y aurait pas de cohabitation entre ces soldats de la force Barkhane et les mercenaires de Wagner. Sous-entendu, si les Russes arrivent, les Français partent. Sauf que pour l'instant, la France n'a pris aucune décision, même si le groupe Wagner inquiète au plus haut sommet de l'État. L'arrivée de ces mercenaires pourrait donc bien mettre en péril la survie de l'opération française Barkhane au Mali.
Merci à vous, Émilie. Émilie Bojard, du service étranger de RTL.
Une pause et dans un instant, le variant Omicron qui risque bien de changer les règles. Le gouvernement envisage un test passe vaccinal plus effectivement test négatif pour entrer. Alors, est-ce que ce sera pour un voyage en TGV ou simplement pour entrer dans un restaurant? On vous répond dans une seconde.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Nous devons éviter tout phénomène de paralysie dans le pays, vous l'aurez bien compris. C'est pour ça que les règles évolueront probablement. Je ne peux pas vous donner encore avec certitude la façon, le nombre de jours d'isolement qui seront requis désormais, mais on peut certainement même commencer à modifier les conditions d'isolement pour les cas contacts, savoir est-ce qu'on traite le variant Omicron comme nous avions traité le variant Delta.
Olivier Véran l'a annoncé dès hier, l'arrivée du variant Omicron risque de pousser le gouvernement à changer les règles. Alors, quelles règles et pourquoi? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Agathe Landais.
Bonjour à tous.
Journaliste au service santé ici à RTL. Alors, parmi les règles qui risquent de changer, celle d'abord liée à l'isolement.
Oui, et donc je vais commencer par vous rappeler les règles déjà en vigueur aujourd'hui, parce que c'est déjà pas simple.
Et accrochez-vous.
Ouais, donc, si vous êtes cas contact, que vous n'êtes pas vacciné, là c'est simple, c'est un isolement pendant 10 jours, même si vous êtes testé négatif. Si vous êtes cas contact mais vacciné, là ça se complique. Ça dépend en fait si le malade que vous avez côtoyé a le variant Omicron. Si oui, vous devez vous isoler 7 jours à partir du dernier moment où vous l'avez vu. S'il n'a pas Omicron, l'isolement n'est pas obligatoire. Il faut simplement faire attention pendant 7 jours, respecter les gestes barrières et éviter de côtoyer des gens à risque. Enfin, pour certains, l'isolement peut aller même jusqu'à 17 jours. Ça concerne en fait tous ceux qui vivent sous le même toit qu'une personne contaminée par Omicron. 17 jours, c'est énorme. Et avec des centaines de milliers de cas positifs tous les jours, on le comprend, ce ne sera vraiment plus tenable bientôt si on veut que le pays continue à fonctionner à peu près normalement. À l'étranger, les règles d'isolement ont déjà été modifiées, en Afrique du Sud et en Angleterre, deux pays où Omicron flambe. La période d'isolement a été déjà réduite de 10 à 7 jours pour les malades du Covid qui étaient vaccinés.
C'est ce cas-là, le dernier, qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que vous êtes vacciné, vous êtes cas contact de votre fils ou de votre épouse, et vous restez 17 jours en dehors du circuit du travail.
C'est ça.
Donc ça ne peut pas tenir.
Ça risque d'être compliqué, effectivement, d'autant que ça peut être des gens qui ne sont pas positifs. Et...
Ah ben bah là, ils ne sont pas positifs.
En fait, ils considèrent qu'il faut rester 10 jours isolés à la maison avec le malade et ensuite compter encore 7 jours derrière pour être bien sûr qu'on n'a pas le virus qui s'est déclaré tardivement.
Alors, autre règle, c'est celle qui concerne le pass sanitaire. On le sait, il devrait être transformé en pass vaccinal très vite. Hein. Le texte est présenté lundi en Conseil des ministres. Mais dans certains cas, ce pass vaccinal pourrait ne pas suffire et on risque de devoir en plus présenter un test négatif.
Oui, c'est en effet une piste que va étudier le gouvernement dès le début de la semaine prochaine. Il y aura un conseil des ministres exceptionnel, un conseil de défense sanitaire, encore un où cette question sera donc étudiée. Il pourrait donc décider que pour certains lieux, être vacciné ne suffira plus pour y accéder. Il pourrait falloir donc en plus faire un test. On ne sait pas précisément encore aujourd'hui quels lieux seront concernés.
C'est tout le problème.
Probablement des endroits très à risque de contamination. Alors pour avoir une vague idée de ce qui va pouvoir se passer, Il faut regarder ce qui se passe à l'étranger, puisque c'est déjà le cas aujourd'hui en Allemagne, mais aussi en Suisse et en Autriche. Là-bas, en plus du pass vaccinal, il faut présenter un test négatif pour aller au théâtre, au cinéma, à certains événements sportifs et même parfois dans les discothèques, pas dans les restaurants et les bars. On verra en début de semaine si notre gouvernement prend la même décision.
Alors, les cinémas et les théâtres vont souffrir. Les restaurants, effectivement, c'est là où on va avec les cafés sans doute le plus souvent. Donc, si les restaurants et les cafés ne sont pas dans cette liste, c'est pas la même chose que s'ils sont dans cette liste. Parce que s'ils sont dans cette liste, ça veut dire de se faire tester quasiment tous les jours.
Effectivement.
Ce qui serait quand même compliqué.
Alors, le problème, et il faut bien expliquer ça, c'est que aujourd'hui, par exemple, à Gap, on peut tout à fait prendre un TGV alors même qu'on est positif et pourtant on vous demande à l'entrée un pass sanitaire.
Ouais, là ça fait clairement partie des trous dans la raquette du système parce que effectivement ce que vous soulignez c'est que quand on est testé positif au Covid, notre pass sanitaire n'est pas désactivé automatiquement alors même qu'on est censé être en confinement donc ne pas fréquenter de lieux publics pendant 10 jours. Ça veut dire que si l'on est un petit peu inconscient, qu'on se fiche un petit peu de contaminer les autres, il est tout à fait possible d'aller prendre son train alors même qu'on a été testé positif au Covid. Lors du pass, du contrôle du pass sanitaire, il suffit de montrer du coup le pass vaccinal, de ne pas montrer le test positif évidemment. Vu que ce pass marche toujours, aucun problème, on peut monter dans le train. Ça vaut d'ailleurs pour tous les lieux où on exige le pass sanitaire, d'ailleurs, pas seulement le TGV, les restaurants, les bars, les cinémas, mais jusqu'à maintenant, les autorités de santé ont préféré faire confiance au bon sens des Français et à leur esprit de responsabilité.
Merci Agathe, effectivement c'est une situation si particulière. Il est 12h47, a priori on va moins parler du Covid maintenant, c'est quand même Noël, je le rappelle, en tout cas c'est le 24 décembre. Donc on va être avec les auditeurs qui nous préciseront tout à l'heure comment ils appréhendent ce moment. Mais pour le moment on va être avec Michel Sarran qui va nous dire ce qu'il faut dîner ce soir. A tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Les fans auront reconnu le générique de Top Chef. On est aujourd'hui tous ou presque en cuisine pour nous aider. Michel Sarran donc en direct avec nous dans RTL Midi. Bonjour chef.
Bonjour Amandine.
Mais merci beaucoup d'être avec nous depuis Toulouse. Alors, moi, j'avais une petite question. Il est 12h49, j'ai 6 personnes ce soir pour le réveillon et je n'ai pas encore fait les courses. Qu'est-ce que je peux préparer digne de ce nom, quand même?
Alors, écoutez, je vous entends depuis tout à l'heure. Moi, j'ai déjà envie de dire, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, ouais. Qu'importe le menu pourvu qu'il y ait le plaisir et la fête. C'est pas très important, je crois, le choix des produits. Je vais peut-être vous décevoir. On peut cuisiner tout ce qu'on veut. Il y a de très beaux produits en ce moment. Ça va dépendre aussi des capacités financières de chacun. Il y a des produits qui sont réservés à certaines personnes. Je pense à la truffe, je pense au homard, je pense à tous ces produits de luxe. Mais aussi, on peut travailler des produits beaucoup plus accessibles. Je pense au Saint-Jacques, qui en ce moment sont quand même tout à fait accessibles pour faire une entrée simple, une petite marinade de Saint-Jacques avec un peu de grenade, un peu d'acidité. Ça, c'est une entrée facile à faire et qui fera plaisir. Après, vous pouvez partir sur, je ne sais pas, une volaille, parce que la volaille, c'est un produit qui n'est pas trop clivant, qui plaît à beaucoup de personnes, mais sans forcément aller vers le chapon. On peut aussi très bien partir sur une volaille, une belle volaille française. Bien sûr, il y a les volailles de Bresse, mais il y a le poulet jaune des Landes ou le poulet du Gers, et que vous allez accommoder avec quelques produits divers, des tubercules, puisque c'est la saison des tubercules ou des salsifis. Mais ce qui va compter surtout, c'est l'attention que vous allez mettre pour rendre ce produit festif.
L'amour qu'on y met. C'est ça.
Exactement.
Il faut que ça fait aussi, du cœur.
Oui, mais un peu de technique aussi et quand même d'expérience. Mais sur
la volaille... la technique, je ne vais pas vous l'apporter par téléphone comme ça ou par radio comme ça.
Et en une heure non plus.
Vous l'avez ou vous l'avez pas.
On a compris qu'on ne va pas dîner chez Amandine ce soir et on va chez vous. Ça, j'ai bien compris qu'elle n'a rien préparé. Il est 12h51. Non, mais moi, sur la volaille, quelle est la différence entre le chapon, la pintade et le poulet en termes de goût?
Alors... Le chapon, bon, déjà, c'est une pièce qui est assez imposante. Bon, vous connaissez le traitement que l'on fait subir à ces pauvres volailles pour qu'elles s'engraissent davantage. Et donc, elles vont être beaucoup plus grasses et beaucoup plus moelleuses. Mais en fait, elles seront moelleuses en fonction de la cuisson que vous allez
apporter. Mais parfois, c'est un peu sec, ça, Michel Sarran.
Mais je pense que c'est ce que vous dites. Moelleuse, c'est-à-dire qu'il faut les faire cuire très longtemps, visiblement.
Il faut les faire cuire très longtemps en faisant attention de ne pas les cuire trop longtemps non plus parce que là, elles vont devenir sèches. Donc ça, c'est ce auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, ça s'appelle la technique. Il faut connaître un petit peu et franchement, si vous n'êtes pas sûr, ne partez pas sur ce chemin.
Ah bon, parce que c'est plus dur à faire cuire par exemple un chapon qu'une viande rouge ?
Déjà, oui, bien sûr, parce que une viande rouge, la cuisson, elle est quasi immédiate. Si vous avez l'habitude, c'est au toucher, on maîtrise davantage. Le chapon, c'est une grosse pièce qui va cuire très longtemps, et le moment où elle va devenir sèche, je suis pas sûr que vous le maîtrisiez. Donc, faites-vous plaisir. assurez sur ce que vous savez faire.
Oui, mais
et puis concentrez-vous.
C'est ça.
Oui, ben alors allez au restaurant tant qu'ils sont ouverts. Oui. Mais
bon, le dessert.
Mais c'est ça.
On parle alors, du dessert, Amandine.
Oui, bûche obligatoire ou pas, Michel Sarran? Non.
Alors aujourd'hui, bûche, ça veut plus dire grand-chose parce que finalement, on met tout sous ce nom-là. Moi, j'aurais envie de vous diriger vers des agrumes, parce qu'on est dans la période des agrumes. Pourquoi pas des clémentines corses et avec des feuillets de meringue.
Vous avez mangé des salsifis déjà tout à l'heure. Si je pouvais avoir un peu de sucré, ça m'irait bien quand même.
Mais ça peut être très bon, les salsifis.
Ça peut, mais c'est vrai que j'ai pas de souvenir de salsifis exceptionnels, c'était pour ça.
Bon, mais je vous en ferai goûter, je vous promets. Mais ensuite, la bûche, vous pouvez faire des feuillets de meringue, ça c'est assez facile à faire, que vous allez laisser dessécher au four. Des suprêmes de clémentine corse, vous pouvez faire une crème à base d'orange, un peu dans l'esprit lemon curd, vous savez, cette crème orangée, et vous montez ces feuillets, ça peut rappeler l'écorce des bouleaux, et vous pouvez comme ça laisser libre cours à votre imagination et à votre talent pour faire une
bûche. Donc on met un feuillet, une couche de mousse, et on empile comme ça, comme un millefeuille
Un petit peu comme un millefeuille avec des jolis points de crème. Je vous assure que vous pouvez faire quelque chose de très joli. Après, sinon, vous pouvez partir sur les fruits exotiques. Mais bon, ça vient de loin. Je trouve que c'est un petit peu dommage par rapport à, je sais pas, à ce qui se produit par chez nous, d'aller chercher trop loin des fruits exotiques. Donc, les agrumes, c'est une bonne chose.
Ce qui est fascinant lorsqu'on voit les menus de gala du temps passé, c'est combien les gens mangeaient deux fois, trois fois plus qu'on ne mange aujourd'hui. C'est-à-dire que ce soir, ça va être entrée, plat, dessert dans 80% ou 90% des familles. Il n'y a généralement qu'une entrée, qu'un plat. Alors qu'à l'époque, il y a un siècle, dans les menus de gala, je parle.
Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Pascal Praud, parce que là, je suis passé au marché ce matin. Quand je vois tout ce qui est acheté, on va acheter des huîtres, on en fait toujours un petit peu plus. Or, pour moi, la quantité ne rime pas toujours avec qualité. Donc, moi, je préfère être sur entrée, plat, dessert, si c'est très bien maîtrisé, avec un joli plateau de fromage de Noël, que de vouloir mélanger du homard, des huîtres, du foie gras.
Et dans quel ordre,
etc.
Mais le foie gras, on mange après ou avant les huîtres, par exemple?
Ah, chez nous, en Gascogne, c'est toujours en premier.
Donc d'abord, le foie gras d'abord. Et le foie gras est avant le poisson, quoi, avant le saumon fumé, avant les huîtres, avant, les langoustines.
Non, mais là encore, il n'y a pas de règle. Si vous faites une terrine de foie, vous faites une terrine de foie, vous allez faire... Vous allez commencer par le foie gras qui est très rond, qui va tapisser votre palais. Derrière, vous pouvez manger des huîtres qui, elles, au contraire, vont réveiller le palais pour la suite, apporter cette iode qui va nettoyer un peu vos papilles, et ensuite vous passez à autre chose. Maintenant, vous pouvez aussi faire un foie chaud, et dans ce cas-là, il va trouver ça.
Moi j'aime bien. Non mais même le foie chaud. Alors on va parler de boire. Alors boire, c'est toujours un dilemme. Est-ce qu'on doit mélanger? Déjà on a pris une coupe de champagne parfois. Si vous avez le foie gras, il y a un vin généralement qui accompagne, qui est parfois sucré. Ça peut être du Sauternes. Si derrière vous mettez du blanc et du rouge, moi je suis pas pour non plus de mélanger les vins.
Non mais je suis pas pour de mettre du sucré avec le foie gras. Pour une raison simple, c'est que le foie gras déjà sature les papilles et le sucre en plus va venir ça vous casse le repas. Pour moi, ça casse le repas. Donc je préfère un vin vif, un vin blanc vif pour accompagner le foie gras et qui peut se prolonger sur des coquillages si vous partez sur des coquillages.
Mais mélange des vins, ça vous gêne pas ?
Moi,
ça fait pas mal à la tête, tout simplement. C'est aussi
avec
simple que ça.
Avec modération, Pascal, c'est tout.
Oui, mais modération.
Mais voilà, c'est ça.
Une coupe de champagne. C'est Noël.
Moi, je vais vous faire un aveu. Moi, je suis rouge. Je ne bois que du vin rouge.
Ah oui.
Et ça ne me gêne pas de boire du vin rouge avec le foie gras, même si tout le monde dit que c'est une hérésie.
Quel type de vin rouge, votre avis. Du coup ?
Un Bordeaux. Monsieur Sarran,
voilà,
quel type de vin rouge ?
Ah non, mais là, Monsieur Pro, là, vous êtes un homme riche, mais il y a tout un tas d'autres régions viticoles en France qui offrent. J'ai rien contre Bordeaux, hein, mais vous pouvez trouver pour des personnes qui ont un peu moins de moyens, des vins dans des je sais pas, on peut aller sur des Syrah, il y a de très jolis Syrah en Languedoc-Roussillon, on peut aller aussi sur la Côte du Rhône, un Saint-Joseph qui va être assez léger mais un petit peu épicé peut très bien accompagner un repas. Et puis enfin des vins, vous avez pléthore de vins, c'est aussi la force de notre pays. Bien sûr, vous pouvez aussi, si c'est la grande fête et que vous voulez faire plaisir à toute votre famille, offrir un grand cru de Bordeaux, pourquoi pas.
Mais merci beaucoup, Monsieur Sarran. Moi, je suis un peu comme vous, je suis capable de boire à l'apéritif un seul vin, un vin rouge et d'aller jusqu'au bout avec.
Ah, du début à la fin, oui.
Oui. Moi, je ne suis pas un fan du mélange des vins, parfois ça tape sur la tête. Vous êtes où ce soir, Monsieur Sarran ?
Ben ce soir, je serai en famille, puisque le restaurant est fermé pour les fêtes de Noël, toujours.
Ça, c'est
et c'est voilà, vous qui cuisinez dans ce cas-là, j'imagine,
ah, oui.
Oui. Ou en famille.
C'est vrai que je m'y colle souvent.
En fait, il faut avoir dans sa famille un Michel Sarran. C'est ça.
On me laisse pas trop le choix
pour l'année prochaine.
Merci beaucoup, en tout cas.
Merci, en tout cas, et joyeux
Noël. Avec grand plaisir. Merci à vous également.
Vraiment, c'est un plaisir de vous écouter. Une pause. Les auditeurs qui vont nous dire ce qu'ils préparent, comment ils le préparent, avec qui ils le préparent. À tout de suite.
RTL Midi.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.